Europe 1, 15h-16h,
samedi en France.
William Lémergie.
Bonjour à tous, voici donc Samedi en France. C'est l'émission, vous le savez peut-être désormais, où nous vous faisons découvrir des lieux insolites et souvent oubliés des parcours touristiques traditionnels. Dans un instant, une abbaye du XIe siècle qui abrite, figurez-vous, depuis peu de temps, c'est pour ça que nous y sommes retournés, une collection de tableaux contemporains signés de très grands maîtres. Le contraste est, comme on dit à la radio, saisissant. Ensuite, dans la catégorie savoir-faire traditionnel, nous allons visiter ensemble un site touristique dans l'Orne où vous pourrez fabriquer vous-même vos chocolats et partir avec, bien sûr. Ensuite, un site de plein air, comme chaque semaine, où vivaient, il y a très très longtemps, des Gallo-Romains. Alors, c'est une vraie balade pour remonter le temps. Et pour commencer avec notre chasseur de site, Gavin Clemente Ruiz, pensionnaire du guide du Routard, c'est vous dire, nous partons au Pays Basque pour découvrir... Alors, ça s'appelle un château observatoire. Pourquoi ? On va vous le dire. Alors là-bas, tout est beau, c'est simple. Hein. Le lieu, bien sûr, et le chemin pour s'y rendre, ça se trouve où ? Très précisément, Gavin.
Eh bien, bonjour William, bonjour à tous. On va partir sur la route de la Corniche et directement à Andaye. C'est là que se trouve, vous l'avez dit, le château observatoire d'Abadia. Alors, c'est un lieu vraiment hors du commun, c'est pour ça qu'on l'a choisi. Il a été construit à la fin du 19e siècle sur un immense domaine. Ça fait 65 hectares. Ça a été construit par Antoine d'Abadie et il l'a légué à sa mort à l'Académie des sciences. C'est sur cette portion de la côte, oui. Vous ne pouvez pas vous tromper, il n'y a que le château, vous le verrez de loin, c'est vraiment magnifique.
Oui, parce qu'il n'y a rien d'autre, tout ça c'était à lui. Quoi.
On est en plein milieu de nulle part, bord de l'eau.
Mais c'est qui ce monsieur d'Abadie et qu'est-ce qu'il a fait de son château?
En fait, c'était un scientifique d'Abadie, doublé d'un grand voyageur. Il était passionné par l'Orient, alors il a pu voyager grâce à ses rentes quand même. Il a même été jusqu'en Éthiopie et c'est lui qui a dressé la première carte de l'Éthiopie. Je trouve ça super. Et c'est un homme vraiment brillant. Il parlait, paraît-il, 14 langues à la fin de sa vie. 14 langues. C'est pour cette raison d'ailleurs que vous allez voir sur les murs du château.
14 langues. Ouais. À quoi ça sert de parler 14 langues?
Ça
sert à voyager, quoi.
Ah non, ça sert à écrire des citations sur les murs de son château dans toutes les langues. Vous le verrez en visitant l'endroit.
Alors, puisqu'il est original, cet homme, son château, il ressemblait à quoi?
Il est tout aussi original que lui. Et alors, il faisait rien comme tout le monde. Et pour construire son château, il a fait appel rien qu'à à violer le duc. Ça, c'est l'un des architectes quand même les plus célèbres de l'époque, c'est l'équivalent de Le Corbusier au 19e. C'est lui qui a restauré le Mont-Saint-Michel, et même Notre-Dame, le Viollet-le-Duc.
À côté de Notre-Dame, il y a la petite maison construite par Viollet-le-Duc.
Exactement.
Où habite le chanoine local.
Je crois bien, je crois que c'est ça. Et donc Antoine d'Abadie, il l'appelle, il dit Viollet, viens, on va faire un château, et il fait un château néogothique. Qui ressemble à une forteresse avec des tours à créneaux, ça, encore une fois, face à l'océan, c'est vraiment magnifique.
Il y a je vois trois tours, elle est face à l'océan, ce château-là. C'est un château fort, si vous voulez, au bord de l'eau. Alors, c'est pas banal, et évidemment, ça se visite. Alors, ça tombe bien, puisque nous sommes en ligne avec Mylène Muller, qui est guide et responsable de l'accueil et des boutiques du château Abadia, pour parler de cette bâtisse et de ce qu'elle contient aujourd'hui. Bonjour Mylène.
Bonjour à tous.
Alors un mot sur cet Antoine d'Abadie d'abord. Je disais que c'était un homme original qui a dirigé l'Académie des sciences, il me semble bien, à une époque. Il aimait bien l'astronomie et c'est pour ça qu'il en a fait un observatoire, son château.
Oui, tout à fait. Antoine d'Abadie, c'est un homme quand même assez étonnant par ses origines déjà basco-irlandaises. Et c'est vrai qu'il s'est passionné pour l'astronomie plutôt sur le tard. À l'origine, c'était plutôt un philosophe, un linguiste, un explorateur, mais un homme fascinant, en fait.
Et cet observatoire, en dehors de lui, il a été utilisé par d'autres?
Bien sûr. Antoine d'Abadie collaborait avec 5 ou 6 astronomes au 19e siècle. Et dans la mesure où il n'a pas eu d'enfant avec son épouse Virginie, il a décidé de léguer son château à l'Académie des sciences. Vous l'avez dit tout à l'heure, il en était le président à la fin de sa vie. Et après sa mort, les travaux se sont poursuivis jusqu'en 1975.
Ah d'accord. Mais ce qui est remarquable quand on voit ce château, c'est pas une petite bâtisse, hein, c'est gigantesque. Parce qu'en plus, s'il a habité tout seul avec sa femme, ils ont dû s'ennuyer tous les deux.
De l'extérieur, Le château peut paraître assez impressionnant, mais à l'intérieur, les décors sont tellement chargés et aussi très sombres. C'est assez impressionnant pour des visiteurs du 21e siècle qui aiment bien la luminosité et la clarté.
Oui.
Mais en fait, à l'intérieur, c'est très intime. C'est plus un manoir qu'un véritable château.
Ah, peut-être, vous avez raison. Parce que je regarde les ouvertures, elles sont nombreuses, mais elles ne sont pas très grandes finalement. Ça ne m'étonne pas que vous me disiez qu'il y a pas...
Oui, c'est vrai, et puis ce sont des vitraux.
Oui, c'est ça. C'est ça, ce sont des vitraux, ouais. Il paraît que cet homme-là a permis de cartographier le ciel, plusieurs centaines, voire des milliers d'étoiles, c'est vrai ?
Oui, tout à fait. Durant la totalité de l'activité de l'observatoire, donc de 1879 à 1975, 50 000 étoiles ont été cartographiées.
50
000. C'est vraiment le but de cet observatoire, de faire de l'astrométrie, donc un travail de cartographie du ciel.
Et ça se voit à l'intérieur, il y a des grands tableaux, des cartographies, ça se voit au mur ou pas ?
Alors ce sont plutôt des ouvrages, des catalogues d'étoiles.
Ah,
donc il y en a dans l'observatoire, mais aussi dans la bibliothèque, il y a une pièce absolument magnifique. Ouais.
On a dit tout à l'heure qu'il aimait l'Orient. Là aussi, est-ce que ça se voit quand on visite le château ?
Ah oui, tout à fait. Oui. Abadia, c'est une oasis au Pays Basque. Hein. On voyage beaucoup dans le salon arabe, le fumoir mauresque, le boudoir persan. En fait, on voyage en visitant ce château. Il y a même l'une des inscriptions, vous en parliez tout à l'heure, qui est en arabe et qui nous dit que la vie s'apprend en voyageant. Donc c'est vrai que dans ce château, ça s'y prête vraiment. Ouais.
Pas faux d'ailleurs. Quand vous racontez ça fait un peu penser à Pierre Loti, qui est un passionné d'Orient. Et quand on voit les décors des maisons que Pierre Loti avait décorées, c'est pas loin. C'était quelqu'un qu'il connaissait d'ailleurs, non ?
Ah, tout à fait. Oui, ils se sont rencontrés dans les années 1890. Pierre Loti était alors matelot, il était en charge d'un bateau qui s'appelait le Javelot sur la Bidassoa, le fleuve qui fait la frontière entre la France et l'Espagne. Et très rapidement, il a rencontré les époux d'Abadie, qui étaient vraiment des personnes atypiques, il les surnommait les vieux châtelains. Donc il y avait quand même un certain écart d'âge, mais il était passionné par ces personnes qui avaient énormément voyagé. Et qui avait beaucoup de choses à raconter,
Mais bien sûr, c'était des compagnons de, non pas de route, mais en tout cas des témoignages sur des pays qu'ils avaient sans doute traversé les uns et les autres. Alors,
exactement.
Vous parliez de la Bidassoa. C'est le moment aussi de parler peut-être de ce Pays Basque, le Pays Basque qui est français et espagnol. Il a travaillé là-dessus? Il a joué un rôle ou pas dans...
Énormément. Antoine Labadie était considéré comme le père des Basques et Euskaldunen Aita. Parce qu'à l'âge de 26 ans, il a rédigé des études grammaticales sur cette langue, l'euskera, le basque. Et ensuite, ça a été un ardent défenseur et promoteur de la culture locale. Il avait instauré des rencontres culturelles qu'on a appelées des jeux floraux. Et le but, c'était vraiment de mettre en avant cette culture dont il était très fier.
Euskadem Aita, c'est ça qui veut dire, en basque, ça veut dire le père des Basques.
Exactement, Aita, c'est le père. Et Euskaldun, celui qui parle basque, et Euskaldunen Aita, le père des Basques.
Vous parlez basque ?
Et non, ez dakite euskera, mais je me débrouille.
Non, parce qu'il faut dire aussi au Pays Basque, il y a encore des écoles où c'est enseigné, et tant mieux d'ailleurs.
Des Ikastola, des Ikasbi,
Alors, il y a d'autres pièces étonnantes, m'a dit Gavins, dans ce château, qui rendent la visite passionnante, bien sûr. C'est quoi cette chambre qui a été destinée à Napoléon ?
Ah oui, la chambre de Napoléon III, la chambre de l'empereur. Il y avait toute une légende autour de cette pièce. Napoléon III, qui d'ailleurs avait rencontré Antoine d'Abbadie avant d'être sacré empereur, devait poser la dernière pierre du château et dormir dans cette pièce. Ouais. Malheureusement, il est décédé avant la fin de construction. Cette pierre, il ne l'a jamais posée. Ça, c'est un peu la légende. Ce château restera à jamais une demeure inachevée parce que cette pierre, elle manque encore. Et Napoléon III n'a jamais mis les pieds dans cette chambre.
Ni même Eugénie de Montijo.
Alors, c'est vrai qu'ils s'arrêtaient peut-être à Biarritz. Ils se sont fréquentés. Virginie, l'épouse d'Antoine d'Abbadie, elle fréquentait même le couple impérial avant de rencontrer Antoine d'Abbadie.
Ah bon ?
Oui, elle était issue d'une bonne famille. Oui.
C'est pas très loin. Biarritz, Andaille, Saint-Jean.
Exactement.
Ouais. Bon, ben c'est bien pour la promenade. si vous êtes dans la région là en ce moment, allez-y parce que le spectacle est magnifique avec cette vue sur l'océan. Ce château est sur sur un point de vue extérieur qui est superbe et l'intérieur est comme vous l'avez expliqué tout aussi beau et intrigant. Et ça se trouve à Hendaye. Merci beaucoup, Mylène. Bonne
Merci
journée.
À vous.
Au revoir.
À vous également. À bientôt. Au revoir.
Au revoir. Alors, il y a des visites guidées parce que vous ne faites pas tout seul, tout ça.
Bien entendu, c'est tous les jours, sauf le lundi. Ça coûte à peine 4 euros. À partir de 4 euros, vous en aurez pour 45 minutes au plus court et 2 heures au plus long. Car il faut aussi visiter tous les extérieurs du château. On vous l'a dit, c'est sur 65 hectares. Il y a de quoi faire.
Alors, si vous êtes dans la région, profitez-en. Hein, parce qu'on peut manger et dormir dans le coin, bien sûr.
Bah, toujours, toujours. Surtout au Pays Basque, il y a les jardins de Bakea. Oh là là, j'ai du mal. À Biriatou.
Ah, vous n'avez pas fait basque première
c'est
langue.
Pas fait basque.
C'est allemand,
pas fait
oui,
basque.
Mais basque, il n'y a pas fait. Difficile
donc,
le basque. Hein.
Les jardins de Bakea à Biriatou.
Voilà,
on y est. C'est à un quart d'heure en voiture du château. C'est un petit coin de paradis. C'est dans un calme absolu. Vous avez la vue sur le jardin et vous avez aussi de l'autre côté la vue sur
ah
les
oui,
montagnes.
Bien sûr. Les montagnes à
et
côté.
C'est ça le Pays basque.
Ouais, ouais. Alors, vous retrouverez toutes ces adresses sur les réseaux sociaux habituels que vous fréquentez ou alors, c'est très bien aussi, et c'est peut-être mieux, europe1.fr.
Europe 1, 15h-16h, samedi en France.
William Lémergie.
Permettez-moi de passer devant vous, pardon. Vous allez avec nous pénétrer maintenant dans un des plus grands ensembles monastiques d'Europe, parce qu'il n'y en a pas beaucoup dans le même genre. Et parce que depuis peu, c'est l'intérêt aujourd'hui, c'est devenu aussi un gigantesque musée d'art contemporain. Allons-y, Gavitz. Alors, ça se trouve où d'abord ?
Alors, ça se trouve à 4 km au sud de Montsoreau, c'est précis. On est aux frontières de l'Anjou, de la Touraine et du Poitou. C'est une abbaye, vous l'avez dit, qui a été fondée au XIe siècle. Alors, à l'époque, on y accueillait toutes sortes de populations. C'est ça qui m'intéressait.
Oui,
c'était des vagabonds, c'était des lépreux, des prostituées qui venaient ici. Mais il y avait aussi des dames de la noblesse qui venaient faire une sorte de retraite spirituelle.
C'est une cohabitation très bizarre. On va vous l'expliquer tout à l'heure.
Ouais, et on va aussi voir comment ils habitaient tous ensemble et partageaient les lieux en quartier selon les situations de chacun.
Oui. On mettait pas les prostituées avec les dames de la haute.
Non.
Bien sûr que non. Alors il faut dire rapidement un mot sur les protecteurs de cette abbaye.
Oui, parce qu'il s'agit pas de n'importe qui, ce sont les Plantagenets, les comtes d'Anjou, qui aimaient particulièrement ce lieu au point d'y être enterrés aujourd'hui. C'est comme ça qu'on se retrouve avec les gisants d'Aliénor d'Aquitaine ou encore de son fils Richard
Cœur de Lion. Des stars les deux là,
hein.
Aliénor d'Aquitaine et puis Richard Cœur de Lion. Moi je savais pas qui était là lui.
Et oui, le gisant. Vous allez voir, c'est beau.
Alors on va faire un saut dans le temps et en venir à la Révolution. Parce que là, comme dit l'autre, ça se gâte.
C'est là que ça se gâte. En effet, l'abbaye sera vendue après la Révolution par l'eau. Elle sera même pillée et ensuite on va la transformer en prison. Charles Maurras va y faire un séjour. Il y a aussi l'écrivain Jean Genet qui va venir pour d'autres raisons. C'est en 75.
Oui, j'écrivais pas les mêmes genres de littérature.
Non, c'était pas vraiment la même chose. C'est en 75 que l'ensemble va être transformé en centre culturel. Et puis l'événement, il y a peu, vous l'avez dit encore une fois, l'abbaye royale a reçu une donation exceptionnelle de monsieur et madame Kligman qui ont offert 900 œuvres exposées aujourd'hui dans les anciennes écuries.
Oui, c'est énorme.
C'est énorme.
On va en parler tout de suite là puisque nous sommes en ligne avec Dominique Gagneux, directrice du musée d'art moderne de Fontevraud. Bonjour madame Gagneux.
Bonjour.
Alors, c'est pas banal ça, une abbaye comme écrin pour des œuvres aussi modernes, voire contemporaines, et ça, à côté du tombeau de Richard Cœur de Lion, l'ensemble est saisissant, quand on le dit comme ça.
Oui, je dirais même que c'est plus que pas banal, hein. C'est presque unique d'avoir un musée d'art moderne dans un complexe abbatial qui est à la fois un monument historique exceptionnel, un centre d'art qui accueille des expositions, des résidences d'artistes, où on donne des concerts et qui possède un hôtel, un restaurant étoilé. Aujourd'hui, donc depuis mai dernier, on a un nouvel équipement culturel qui est un musée de France et donc qui a été ajouté à cet ensemble remarquable. Il abrite une collection d'art qui va de Sumer à Bernard Buffet. Alors évidemment, la cohabitation avec Richard Cœur de Lion, pourquoi pas.
Oui, mais il y a les plus grands peintres du 19e, du 20e, parce que je vois les noms là, c'est Degas, Van Dongen, Robert Delaunay. Comment vous avez pu répartir toutes ces œuvres-là, par époque, par genre?
Ah non, alors pas du tout justement. L'idée était de construire un parcours qui évoquerait, et je ne dis pas reconstituer, hein, c'est vraiment évoquer, un intérieur privé puisque évidemment le musée est construit à partir d'une collection particulière. Et donc, quand on va chez un collectionneur, on voit des œuvres très diverses
qui
cohabitent harmonieusement.
Oui,
donc l'idée, c'était de faire dialoguer les formes d'art venues d'horizons et d'époques très variées. Et c'est ce qui rend ce musée très contemporain.
Oui, comme si vous visitiez, et c'est le cas, et c'est, on aurait pu penser que la maison de monsieur et madame Klingman, quoi, ils ont mis leur tableau là, peut-être.
Oui, alors, alors évidemment, nous sommes dans une fannerie qui a été construite à la fin du XVIIIe siècle. Donc, on n'est pas évidemment dans un intérieur
parisien.
Au contraire, l'idée, c'était aussi de faire passer cette collection de sa demeure privée dans un musée public, ouvert au public, et justement de donner à voir toutes ces œuvres et de procurer au public beaucoup de plaisir, en fait.
Oui, alors un mot sur cette famille, monsieur et madame Klingman. Pendant 60 ans, ils ont collectionné, hein, et ils avaient un goût assez sûr et très varié. Et qui étaient-ils tous les deux?
Alors, elle est fille de collectionneurs, qui ont d'ailleurs aussi créé un musée dans les années 1980, le musée d'art moderne de Troyes, à partir de leur collection. Donc, elle a très jeune fréquenté des artistes, et elle-même, elle est devenue peintre et sculptrice. Et lui a été résistant à 20 ans, et il a monté un empire textile absolument remarquable, qui incluait les marques Lacoste, Newman, Saint-Laurent Rive-Gauche.
Ah, ouais. D'accord. Mais comment cet héritage est arrivé à l'abbaye, alors, finalement?
Alors, en fait, Léon Klingman a 101 ans, il faut quand même le souligner. Ah. Ils ont souhaité, donc, tous les deux, faire don de leur collection à l'État, comme les parents de Martine, d'ailleurs, avaient donné leur collection à l'État. Et l'idée, donc, de Bruno Retailleau, président à l'époque de la région des Pays de la Loire, a été justement d'accueillir cette collection pour donner à Fontevraud un nouvel élan, un nouveau dynamisme, et puis offrir justement un nouvel équipement culturel à ce lieu déjà très, très important.
Mmh. Et très important et très visité.
Très visité, oui absolument. Et le musée, depuis son ouverture, trouve son public, parce que le public aime voir ses...
Oui, c'est pas le même public, oui, bien sûr, mais ça s'additionne, tout ça.
Exactement.
Mais c'est le contraste, moi, qui nous a intéressés ici. Vous rendez compte, le monde des gisants, et puis ces œuvres d'art exceptionnelles. Eux-mêmes, les gisants, sont des chefs-d'œuvre aussi, hein. C'est pas une plaque de pierre toute bête, hein.
Ah non, absolument, ces sculptures en tuffeau occupent la nef de l'abbatiale, leur présence est vraiment impressionnante, je dirais silencieuse, imposante en même temps, et ils rappellent évidemment la longue histoire de l'abbaye, voilà. Je rappelle que Caliénor a été reine de France puis reine d'Angleterre, ça non plus, c'est pas très banal, hein, et qu'il a voulu faire de Fontevraud, voilà, la nécropole des rois d'Angleterre, comme Saint-Denis était celle des rois de France.
Bien sûr. Alors, cette abbatiale, je disais, c'est l'une des plus belles d'Europe, mais là, j'en fais pas trop, parce que tout le monde qui s'intéresse à cette architecture le sait. Mais un mot, parce que ça, c'est moins connu, on disait tout à l'heure, le lieu partagé en quartier, réservé à des gens de conditions différentes. Est-ce que l'on retrouve à l'intérieur de l'abbaye la présence de ces populations si différentes?
Alors en fait, Robert d'Arbrissel, donc, qui a été le fondateur de l'abbaye, a entraîné avec lui toute une troupe, effectivement, de personnages qui étaient à la fois de très haut lignage et en même temps, en effet, des gens beaucoup plus modestes.
Oui.
En fait, l'ensemble monastique comportait plusieurs monastères. Donc, il y avait le Grand Moutier avec l'abbatiale et notamment les cuisines romanes, qui sont absolument extraordinaires aussi. Mmh. Il y avait un couvent, le couvent de la Madeleine pour les filles repenties, voilà.
Les filles repenties, pourquoi elles avaient péché?
Les filles de mauvaise vie. Il y avait un monastère d'hommes, parce que en fait la caractéristique aussi de cette abbaye, c'est d'être un ordre double, d'abriter un ordre double et d'être dirigé par une femme, voilà.
Ah, oui, d'accord.
Et enfin, il y a le prieuré Saint-Lazare qui accueillait une communauté de religieuses chargée de soigner les lépreux.
Et il y avait des dames de la noblesse aussi qui venaient faire
bien sûr.
Se recueillir pendant un temps, quoi.
Elle, ah, mais bien sûr, même pendant longtemps, souvent.
Ah oui, d'accord. On les... Ah ouais, bon, d'accord. Pour... Ils les mettaient à l'abri, comme ça, ils n'en entendaient plus parler. Les...
On va diriger l'abbaye, déjà.
Ah oui, d'accord. Ces dames-là. Et donc, les moinillons, de temps en temps, ils croisaient des prostituées. Alors, ils baissaient la tête, ils faisaient le signe de croix, puis ils s'en allaient.
Alors ça, ouais.
Non, non, mais moi, je vous le raconte.
Mais probablement.
Non, je le vois comme ça. Très bien. Très bien. Merci beaucoup, Madame Gailleux, pour cette visite et ces explications. J'invite tous ceux qui nous écoutent à passer une fois dans leur vie devant cette abbaye, d'autant plus que maintenant, elle abrite cette collection tout à fait remarquable. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.
Merci beaucoup. Au revoir.
Allez, double intérêt, donc on l'a bien compris, ça c'est l'abbaye elle-même qui est splendide. Et puis, cette collection, pour la somme modique de
11 euros. Pour l'abbaye, et si vous y ajoutez la visite du musée d'art moderne, c'est 6 euros en plus. Mais vous pouvez aussi coupler l'ensemble. Et pour 14 euros, allez voir et l'abbaye et le musée d'art moderne. Mais vous pouvez le faire aussi séparément. C'est ouvert tous les jours, de 10h à 18h, sauf le mardi.
C'est comme tous les musées de France, c'est abordable. Quoi. Et si on veut déjeuner dans le coin?
Alors, et ben vous allez juste traverser la rue et vous allez aller en face au restaurant Le Plantagenet.
Bah oui, vous pouvez pas s'appeler autrement. Hein. Oui.
C'est le bistrot de l'hôtel de la Croix-Blanche. C'est sur une petite place. Il y a une cuisine régionale vraiment, vraiment délicieuse. Alors, je vous conseille deux, trois choses, William. Vous allez prendre la gouline angevine.
Quoi ?
La gouline angevine.
Gouline, G-O-U-L-I, gouline angevine. C'est quoi ?
C'est une petite tourte aux champignons avec des échalotes, de la tome d'Anjou et des petits rayons. Ça y est, j'ai faim.
C'est pas mal, ça.
Il y a aussi plein d'autres choses que vous allez pouvoir goûter près de la cheminée en cette saison. Je crois que vous avez passé une très, très bonne soirée.
Europe 1, 15h-16h. Samedi en France. William Lémergie.
Pour le site de savoir-faire du jour, nous avons décidé de faire appel à votre gourmandise. Une fois n'est pas coutume, on vous emmène pour le goûter. Quelle heure est-il ? Bon, oui, on a le temps, là. Dans un atelier de fabrication de chocolat. Et c'est à quel endroit, Gavin ?
Alors, justement, pour préparer ce petit goûter, je vous emmène dans l'atelier d'Olivier Vielle. C'est à Alençon, on est en Normandie, dans le département de l'Orne. Bon, alors, habituellement, William, l'Orne, c'est plutôt connu pour la station thermale de Bagnoles de l'Orne. Mais là, vous n'avez pas besoin de nous. Par contre, pour aller voir les chocolats, là, suivez-moi.
Alors, pourquoi le chocolat ? Et pourquoi ici ? Il n'y a pas de cacao dans
l'Orne ? Non, il n'y a pas de cacao. Mais par contre, il y a des excellents artisans chocolatiers dont l'un des objectifs, c'est de transmettre leur savoir-faire.
Alors, c'est
et Olivier Vielle, il est comme ça, il transmet.
Alors, nous avons justement Olivier Vielle en ligne. Bonjour Olivier.
Bonjour.
Alors, vous êtes maître artisan chocolatier et votre chocolaterie, comme vient de le dire Gavin, se situe à Alençon. Alors, vous avez voulu faire clair et simple et vous avez appelé l'endroit le petit chocolatier. C'est parfait, c'est très compréhensible. Excellente idée. Expliquez-moi ce que vous proposez dans votre atelier, puisque on vous regarde, mais aussi on peut mettre la main à la pâte, non ?
Oui, tout à fait. Le but est d'apprendre à faire ces chocolats. Donc, on a un atelier qui dure 3 heures et à partir de 4 personnes.
Et 4 personnes, des gens dont ce n'est pas le métier, évidemment. Ils ne sont pas là en stage. Ils découvrent totalement. Ils vous regardent d'abord, ils y vont ensuite.
Voilà. J'explique grossièrement qu'il va y avoir du travail. Donc, on n'est pas là pour discuter au départ. On se met tout de suite à l'atelier. J'explique les recettes. Et ensuite, on met la main à la pâte.
Quand vous dites, j'explique les recettes, c'est-à-dire vous expliquez quoi, comment on fait un petit carré de chocolat, comment on fait telle pièce ou telle autre. Imaginons que je suis un de vos visiteurs. On commence par quoi ?
Alors, on va commencer par expliquer les deux ganaches, une ganache de base, une ganache classique.
Qu'est-ce que c'est qu'une ganache ?
Alors, une ganache, c'est quelque chose... C'est un bonbon commun dans la chocolaterie. Donc, j'explique ce qu'est une ganache déjà. Donc, une ganache, c'est un mélange d'un liquide et du chocolat. Voilà. C'est l'association des deux produits qui ne sont pas miscibles qu'on va expliquer, qu'on va fabriquer.
D'accord. On s'équipe, on met la tenue de pâtissier, la blouse, petite charlotte peut-être sur la tête, non ?
Oui, tout à fait. Une charlotte, des surchaussures également, et le port du masque, évidemment.
D'accord. Alors, c'est vous qui officiez dans votre atelier, derrière votre table, ou vous êtes plusieurs ?
Tout dépend du nombre de personnes qu'on aura à l'atelier. Si on est un peu plus nombreux, on sera deux. Mais ça va quoi ? C'est toujours moi qui initie le stage. Il faut minimum 4 personnes. Voilà. Et c'est moi qui suis aux commandes, systématiquement.
D'accord. Et il vient d'où votre cacao? Je disais que c'est, on en trouve rarement dans l'Orne, mais et comment on le travaille pour ensuite parvenir à un chocolat?
Alors moi, mon chocolat vient de Sao Tomé, une île qui est située au large de l'Afrique.
Pourquoi vous avez choisi Sao Tomé?
Parce que c'est un cacao qui me plaît, qui a vraiment une identité particulière, et c'est l'histoire même du cacao, de l'importation du cacao d'Amérique du Sud vers l'Afrique. Voilà.
D'accord. Mais moi, je me suis toujours demandé comment on choisissait. Est-ce qu'il faut aller sur place ou vous l'avez découvert quand il était importé en Europe, ou vous allez sur place, vous visitez des lieux, vous dites tiens, celui-là, il a une saveur, il a une odeur particulière, c'est ça que je prends, quel que soit son prix.
Mon histoire est un petit peu différente, c'est que quand j'ai commencé à vouloir transformer le cacao, il était difficile d'avoir des petites quantités. Donc, il a fallu que j'aille le chercher moi-même pour les premières fois. Ah. Et ensuite, voilà, donc j'ai été chercher moi-même le cacao à Sao Tomé. Voilà pourquoi également suis allé à Sao Tomé.
Ah, d'accord. Et est-ce que c'est assez facile pour tous ceux qui sont en face de vous, les quatre personnes, là, les quatre visiteurs, est-ce que c'est facile de suivre vos conseils pour avoir un résultat correct? Parce que le but du jeu, c'est d'avoir quand même un chocolat sous le nez, quoi. Est-ce qu'il y a du déchet? Parce qu'il n'y a pas de déchet dans une chocolaterie. On mange tout, même si c'est pas parfait.
Voilà. Alors, le but, justement, c'est d'apprendre à faire ses propres chocolats, et je suis là pour conseiller et expliquer le déroulement et les erreurs à ne pas faire. Pourquoi on n'y arrive pas? Donc, il y a tout un procédé à respecter. Et le but du stage est là, justement.
Et ça dure combien de temps, une initiation?
Alors, on en a pour 3 heures.
Ah!
C'est le temps minimum pour arriver à fabriquer ses propres chocolats, puisqu'on va partir à partir de là.
On repart avec sa boîte. Moi, une boîte de chocolat, quand on offre une boîte de chocolat, on en a plusieurs, ils sont différents. Je sais pas, il y a 3-4 sortes de chocolat et on en met une vingtaine. Je dis n'importe quoi là. Mais ça ressemble à ça, c'est une boîte avec plusieurs chocolats différents. Chocolat.
Alors,
oui.
On n'aura pas le temps de fabriquer plusieurs recettes, on aura le temps d'en fabriquer que deux.
D'accord.
Donc on aura deux parfums différents et on repartira justement avec un mélange de ces deux parfums.
Vous en vendez dans votre chocolaterie de toute façon?
Tout à fait, oui, nous vendons des chocolats, exactement. Mais le but étant réellement au niveau du stage, c'est de créer ces chocolats et d'y goûter pour voir justement que le résultat, on est capable à partir de recettes de base relativement simples, de faire un produit vraiment...
Ouais. Mais l'intention, c'est de ne pas en faire de futurs chocolatiers, les gens qui viennent chez vous, c'est pas ça l'objet?
Non, c'est pas l'objet. En 3 heures, ce serait un petit peu.
Oui, bien sûr. Ou alors, oui, bien sûr, Olivier, bien sûr. Non, mais c'est de déclencher une vocation en disant, ah ben tiens, j'ai commencé chez Olivier, et puis maintenant, j'ai envie de faire ce métier-là. Non, c'est pas l'objet. D'accord. J'ai compris. Merci pour ces explications. C'est assez original. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de vos collègues qui fassent ça. En tout cas, pas dans l'ordre, me semble-t-il. Merci, merci beaucoup pour cette initiative. Je vous souhaite une bonne journée.
Merci, vous également. Au revoir.
Gavit, combien ça coûte la boîte de chocolat au bout de 3 heures?
60 euros. Alors, vous apprenez et vous repartez avec votre boîte. Hein.
Non, mais c'est pour ça. Moi j'achète les siens. Et puis je garde les miens pour les montrer.
Oh le tricheur. Je regardais quand vous allez m'offrir des chocolats Noël. Hein. Je veux que ce soit vos chocolats.
Bah oui. Bah,
alors il faut vous inscrire tout de suite chez Olivier Viel à Alençon. Et ensuite vous pouvez aller aussi sur europe1.fr pour retrouver toutes les informations et les coordonnées du fameux petit chocolatier.
Là, il s'appelle le petit chocolatier. C'est à Alençon. Il y a une idée de balade dans le coin parce qu'une fois que vous avez mangé tout ça, il n'y a pas de raison. Il faut marcher un petit peu. Hein.
Bien entendu, quand on est à Alençon, il y a deux célébrités.
Ah.
Alors la première, c'est la dentelle d'Alençon, au point d'Alençon. Vous irez au musée des Beaux-Arts et de la dentelle, qui a notamment été inscrit au patrimoine de l'UNESCO.
D'accord, et l'autre célébrité, c'est qui?
C'est Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Sainte Thérèse de Lisieux. Elle s'appelait de son petit nom Thérèse Martin, et elle est née à Alençon. Et là, vous allez aller visiter sa maison familiale, où elle vivait avec ses parents et ses 8 frères et sœurs. C'est hyper émouvant, c'est vraiment très beau, j'ai vraiment beaucoup aimé cette petite maison, j'ai adoré.
Et la cathédrale de Lisieux est pas loin alors,
Ça fait une petite trotte quand même. Hein.
Ah bon,
on est à 1h30, 2h de route.
D'accord.
Mais c'est vraiment très
si
beau.
Vous avez le temps, parce que c'est spectaculaire.
La basilique.
Qu'est-ce que j'ai dit?
Vous avez dit la cathédrale. Il y a une cathédrale aussi, mais il y a la basilique. Il y a la basilique.
La taille au-dessous. C'est basilique.
Vous parlez à l'ancien Lexovien, là.
Ah oui.
Attention. Bah oui. Attention.
Vous êtes du coin ou...
Ah ouais, oui, je suis un petit peu du coin. Je suis né à Lisieux. Eh, il faut bien l'avouer.
Ah d'accord. Je croyais que vous étiez pontépiscopien.
Je suis pontépiscopien, mais né à Lisieux. Et donc s'intéresse un peu.
Ah non, mais il a des titres de noblesse.
C'est un peu ma famille.
C'est pas n'importe qui. Lui.
C'est un peu de la famille.
Très bien. Merci pour toutes ces informations, Monsieur Gavin. Ça a retrouvé sur donc europe1.fr. Et puis chaque semaine dans cette émission, une personnalité que vous connaissez se transforme en ambassadeur. Ambassadeur de quoi? Bah d'une ville ou comme Gavin, d'une région ou d'un lieu où cette personnalité a passé une partie de son enfance. Alors aujourd'hui, il s'agit de Michel Drucker qui a grandi à Vire auprès de ses parents, Lola et Abraham, et puis de ses frères, Jean et Jacques. Et pour Daniel Moreau, il va nous servir de guide à travers ce bocage normand, puisqu'il s'appelle comme ça, et qu'il a si souvent parcouru avec son père, qui était médecin de campagne.
Samedi en France, sur Europe 1.
Bonjour Michel Drucker.
Bonjour Daniel.
Alors j'ai envie que vous me parliez du petit Michou qui est né à Vire et qui était pas loin de la gare. Et à quoi il pensait ce petit Michou quand il voyait le grand ville Paris passer?
À monter dans le train et à ne revenir qu'en ayant fait ses preuves. Donc je voyais le train Paris-Grandville qu'à ma chambre donnait sur la gare. Mon papa avait sa plaque de médecin juste en dessous. Et le soir, c'était 18h, le train qui venait de Grandville qui allait à Paris me faisait rêver. Mais j'avais quand même les petits bonheurs quand il faisait beau, car il fait beau en Normandie de temps en temps. J'allais sur les plages. Toutes ces régions dont on a parlé après le débarquement, une région qui a beaucoup souffert. Mais voilà, pour moi c'était Saint-Père, Jouville, Quiron, Saint-Jean-de-Thomas, allez-y si vous allez là-bas, vous verrez, c'est une jolie côte. Et puis un peu plus haut, il y avait la côte qui remontait vers Cherbourg, le Cotentin, et là on approchait Omaha Beach, les plages du débarquement, cher à Gérard Le Normand qui n'est pas loin. Alors après, c'était Sainte-Mère-l'Église. Il faut y retourner parce que c'est une région chargée d'histoire. Voilà, ça c'est la France de ma petite enfance.
Et Vire, il y a plein de petites églises, j'ai cru comprendre. Et puis la porte-horloge.
La porte-horloge, où avec mes copains, quand la nuit on arrivait, alors que l'heure d'été n'existait pas, l'heure d'hiver non plus, et on avançait ou on retardait la porte-horloge en pleine nuit pour voir la tête des bourgeois le petit matin. Ça s'est terminé un jour au commissariat de police, et puis on faisait des conneries. Et alors il y avait également le château, la place du château, où il y avait le marché le vendredi. Il y avait ce qu'on appelle les rogations, la grande fête foraine annuelle. Et comme mon père était le médecin des forains, eh bien, pour lui faire plaisir, il lui donnait des petits tickets pour les autotamponneuses. Donc si j'avais bien travaillé, j'avais droit au ticket gratuit pour aller faire l'imbécile dans les autotamponneuses. Mais Vire, c'est une ville qui a beaucoup souffert, qui a été bombardée, qui a été pratiquement rasée. Donc j'ai vécu la reconstruction. Mais j'ai surtout connu Villedieu-les-Poêles, Saint-Sever, la forêt de Saint-Sever, à côté de Vire. Si vous y allez, allez-y. Voilà, je suis né là, j'ai grandi là. J'ai sillonné les petites routes de la campagne viroise où mon père faisait des accouchements dans les fermes, car à l'époque, on n'accouchait pas à la maternité, on accouchait dans les fermes. C'est là où je rêvais de succéder un jour à mon père. En étant médecin de campagne, je connaissais les petits chemins par cœur, je connaissais l'étang de Saint-Sever. Donc toutes ces routes-là, je m'en souviens très très bien, je les ai oubliées pendant une quarantaine d'années, puis j'y suis revenu en ayant prouvé quelque chose. Alors le petit Michel était devenu le petit gars de la télé. Donc le regard n'était pas le même. Et puis c'était mon père qui adorait la pêche, comme tous les grands nerveux. Ce qui le calmait, c'était regarder le bouchon. Et j'allais pêcher avec lui le dimanche après-midi sur l'étang de Saint-Sever.
Merci de nous avoir fait partager ces souvenirs de la France de votre enfance, la Normandie de votre enfance. Merci Michel.
Merci Michel. Alors il faut noter que Michel Drucker, vous le savez peut-être, a raconté, puisqu'il a eu des gros problèmes de santé, il a raconté sa renaissance, il appelle ça comme ça, dans « Ça ira mieux demain », c'est publié chez Robert Laffont. Et puis vous pouvez le retrouver le dimanche, c'est-à-dire demain dans Vivement Dimanche sur France 2. Et puis alors, il sera en tournée à partir de janvier, mi-janvier, avec alors C'est un nouveau one-man show. Vous savez qu'il en avait fait un la première fois où il racontait ses souvenirs du métier. Là, ça va s'appeler De vous à moi, dans lequel, je vous donne un petit scoop, tiens, dans lequel il sera pas tout seul.
Ah.
Cette fois-ci. Alors, qui y a-t-il avec lui? Excusez-moi, c'est le secret professionnel, je peux pas en parler. C'est un spectacle, évidemment, plein de souvenirs que vous avez peut-être partagés puisque vous étiez téléspectateur de Michel. Évidemment. C'est plein d'autodérision aussi parce qu'il sait se moquer de lui. Merci à Daniel Moreau. Alors, la semaine prochaine, un autre lieu, un autre paysage, une autre ville, une autre région, d'autres souvenirs.
Europe 1, 15h-16h, samedi en France.
William Lémergie.
Pour terminer cette émission, comme d'habitude, un site de plein air pour une balade en compagnie, cette fois-ci d'un rapace. Gavin, c'est lui qui fait le guide, le rapace?
C'est ça, ouais, enfin si vous savez voler, hein, William.
Bien sûr.
Bon, on va aller avec un effet, se promener dans la forêt du Morvan, en Bourgogne, alors très précisément à Bibracte, William.
Bibracte.
Bibracte.
C'est une grande agglomération.
Bah, à l'époque, oui, c'était même une des capitales gauloises.
Ah bon, elle s'appelait comme ça?
Oui, il y avait un autre nom.
Bibractum ou un truc comme ça.
Quelque chose comme ça, oui, on va dire ça. C'était là-haut, sur ce fameux Mont Beuvray. Et depuis quelques années, bah, c'est devenu un des plus grands sites archéologiques d'Europe.
Ah bon, pourquoi?
Bah, on a découvert à la fin du 19e siècle les vestiges d'une villa gallo-romaine. Et on sait aujourd'hui que c'est là, à Bibracte, sur le mont Beuvray, que Vercingétorix venait prendre ses quartiers d'hiver.
Donc c'était un endroit plus tempéré que d'autres.
Exactement.
Alors oui, vous êtes peut-être moins froid. Bon, alors du coup, grâce à ces vestiges exceptionnels en très bon état, on en sait un peu plus sur l'époque gallo-romaine.
C'est exactement ça, et on a construit un superbe musée,
et voilà,
très moderne, qui vous présente toutes les fouilles, l'état des fouilles qui ont été faites et celles qui sont toujours en cours, hein, parce que ça continue. Il y a des maquettes. Vous pouvez aussi, ça c'est les enfants, ils vont adorer. Il y a des tablettes qui vous permettent de tout comprendre de l'agriculture autrefois et même de la vie quotidienne à l'âge du fer. Vous allez voir, c'est très ludique.
Et la balade, elle se fait à travers les ruines des fouilles, où tout autour, on a le droit de s'approcher.
Et ben en fait, on va partir dans la forêt autour de Bibracte. On va partir à la découverte du site classé, alors attention, grand site de France. On met des majuscules à chaque mot, grand site de France. On sera à pied. Il y a plusieurs itinéraires qui sont possibles. Ça fait entre 2 heures, 3 heures, ça dépend, vous choisissez. Et là, vous allez découvrir la vie des Gallo-Romains. Autrefois, parfois, vous allez longer certains sites des fouilles. Alors, sur le plan historique, c'est grandiose. Sur le plan naturel aussi. Mais moi, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est une visite des lieux, non pas simplement à pied. Ça, on peut tous le faire. Là, vous allez partir avec un rapace.
Oui, alors, ce qui est intéressant, c'est les deux.
C'est ça
que vous allez découvrir, vraiment, quand on vous dira, oui, Vercingétorix, il était là. Il s'est promené probablement là, dans ces ruines-là. Mais alors, le rapace, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Il vous guide?
Eh bien, vous êtes avec le fauconnier.
Alors?
Et vous avez le faucon avec vous. Alors, le faucon, qui est un rapace.
Comment ça, avec vous?
Qui vous accompagne. Comme ça, vous avez l'oiseau qui vole avec vous. Vous allez voir, vous allez comprendre tout au geste et à la tradition de la fauconnerie. C'est ça qui est intéressant, c'est de cumuler les deux. Vous êtes à fond dans l'histoire, là. Vous êtes dans l'histoire romaine, vous êtes dans l'histoire de la fauconnerie, et vous avancez dans la balade, dans la forêt.
Et le fauconnier, il fait comme on le voit dans tous les documentaires, c'est-à-dire qu'il l'appelle et il tend le poing comme ça, le faucon vient se poser, c'est ça?
Je vous propose de demander à Maud, la fauconnière, je ne sais pas si on dit fauconnière.
On va voir ça tout de suite.
Qui va vous donner plus d'informations.
Très bien, alors elle nous entend, Maud Domingue, bonjour.
Bonjour.
On dit fauconnière?
Alors moi je dis femme fauconnier, parce que la fauconnière c'est le petit sac, la petite sacoche où on met la viande pour les oiseaux. Vous voyez, je ne suis pas un sac à viande, donc du coup je...
Ah, oh, celle-là vous avez dû la faire déjà depuis un bout de temps.
Oui.
Je suis tombé dans le piège, les deux pieds devant, parfait. Donc femme fauconnier. Alors qu'est-ce que vous faites avec les rapaces, puisqu'il s'agit... Alors c'est quoi, faucon ou buse?
Alors, l'espèce de rapace avec laquelle on part en balade sont des buses américaines. Malheureusement, c'est pas des buses françaises, parce que ces buses américaines ont une particularité. Elles s'appellent les buses de Harris, et elles vivent en groupe, comme les loups. On les appelle les oiseaux loups. Donc, elles sont habituées, en fait, à côtoyer l'humain, déjà. Elles acceptent facilement.
D'accord.
Et ce qui fait que, bon... d'autres êtres à deux pattes, on va dire. Nous, on est assimilés membres de la famille, et quand ils voient d'autres humains, d'autres animaux à deux pattes, ça les gêne pas tellement.
Mais voilà. Quand on les regarde, ça ressemble à un faucon, quoi.
Non, ça ressemble plus à une buse. Mais alors là, sans support photo, j'aurais du mal à vous expliquer la différence pour que vous puissiez l'appréhender très facilement.
D'accord, le plus simple, c'est de se rendre sur place, comme ça on est tranquille.
Oui, voilà, exactement. Venez.
Alors, la balade maintenant, on part avec vous en forêt de Beuvray, c'est ça ?
Oui, alors on se donne rendez-vous au sommet du Mont Beuvray, qui est donc une forêt, comme disait Gavin, qui est un grand site de France. Donc c'est une forêt qui est très préservée, et qui est presque sauvage, avec des arbres multicentenaires, avec des points de vue magnifiques, et évidemment des vestiges archéologiques. Mmh. Et nous, on se promène, comme ça on accueille les gens, un groupe de gens assez restreint, hein, puisqu'on tourne autour de 15 personnes, oui. Et on les emmène se promener dans cette forêt, mais en compagnie de nos oiseaux, qui sont totalement libres pendant 2 heures, et qui volent autour de nous, devant, qui traînent un peu parfois, qui chassent un petit mulot au passage.
Oui, il faut bien qu'ils soient. Hein,
oui.
Mais ce qui est curieux, c'est quand vous dites que la buse est là, donc elle est attachée à la femme fauconnier, c'est-à-dire qu'elle tourne autour de vous, mais vous êtes son guide à elle aussi.
Oui, c'est ça. Alors en fait, on part en promenade tous ensemble. Donc évidemment, l'oiseau, c'est moi qui va suivre, mais finalement, au bout d'un moment, les randonneurs qui nous accompagnent sont intégrés dans le groupe de balade, et puis les oiseaux les suivent aussi. Donc en fait, comment je pourrais vous expliquer, c'est comme si vous partiez en promenade avec votre chien, sauf que là, c'est un oiseau. Donc, il vole, voilà. Il va un petit peu plus loin, il se pose dans les arbres, et voilà.
D'accord. Est-ce que cette promenade a un lien avec les vestiges gallo-romains, ou vous en occupez pas forcément ?
Alors, on est quelque part en parallèle, donc c'est-à-dire qu'on va passer voir quelques vestiges sur notre propre sentier de randonnée, mais nous, on est là à Bibracte pour mettre en valeur surtout le site naturel.
D'accord.
Donc le Mont Beuvray, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est à la fois un site historique gallo-romain avec tout ce qui est archéologique, mais c'est aussi un site naturel remarquable. Et nous, on est je sais pas si c'est le vrai mot, vitrine, mais en tout cas, on est là pour accompagner ce patrimoine naturel.
Oui, on peut faire les deux quand on est sur place. C'est ça qui est intéressant, me semble-t-il. Hein.
Oui, c'est exactement ça. Ouais.
Alors, vous participez également à un programme de conservation de l'espèce ou pas ?
Alors, on participe à un programme de conservation d'une espèce de faucon asiatique qui est en grand, grand danger parce qu'il souffre en fait du braconnage, qui est interdit par la loi.
Oui,
les rapaces sont protégés. Donc, le métier de fauconnier, c'est à la fois, comme vous disiez, hein, on tend le bras et puis l'oiseau revient. C'est faire du spectacle, c'est faire de la randonnée, puisque nous, on est les seuls en France à faire ça, là, en Bourgogne, la randonnée avec les rapaces en liberté. Mm-hmm. Mais donc, notre travail, c'est faire voler les oiseaux, c'est soigner les oiseaux, mais c'est aussi agir pour la protection des rapaces et la préservation de leur environnement. Donc, ce programme de conservation, qui est un programme britannique d'une espèce de faucon qui est pas du tout européen, qui est vraiment asiatique, pakistanaise, en très très grand danger. Hein, la population a chuté dramatiquement. Nous, on a rejoint, on n'est pas les seuls, évidemment. Et dans toute l'Europe, les fauconniers européens sont regroupés sous ce programme britannique. Et nous, notre rôle en Europe, les fauconniers, c'est d'élever des jeunes faucons dans le but ensuite de les réintroduire au Pakistan.
Quand ils ont fini de faire la promenade avec vous, ils restent dans la forêt ou vous avez prévu des lieux d'habitation adaptés à ces faucons ou à ces buses ?
Alors nous, on est des fauconniers professionnels, ça veut dire que chez nous, dans notre jardin en gros, hein, on a tout un espace qui est dédié aux oiseaux.
D'accord.
Avec toutes les volières d'accueil pour les oiseaux. Donc en fait, quand on va faire la rando, on les emmène avec nous.
Oui.
On va faire la rando en forêt, puis quand la rando est terminée, on rentre à la maison et on les remet chacun dans sa volière. Une volière, comme vous dites, hein, adaptée, assez grande pour qu'ils puissent voler dedans, avec tout ce qu'il faut pour de l'eau, des abris. Voilà, et la nourriture.
Vous proposez, paraît-il, Gavis m'a parlé de ça, une nouvelle randonnée, une rando pieds nus. Vous tenez absolument à ce qu'on ait des engelures, qu'on se fasse mal.
Alors, non.
Pied du quel drôle d'idée, vous savez qu'on fait de très bonnes baskets, hein.
Ce à quoi je tiens, c'est que c'est à ce que vous vous reconnectiez avec la Terre, finalement.
Ah,
donc
oui,
la rando avec...
D'accord.
Ouais. La rando avec les oiseaux, c'est déjà une façon, on va dire, de ralentir et de se reconnecter à la nature en compagnie d'animaux sauvages, en liberté. C'est vraiment un temps d'évasion et de détente. Et quand on se met pieds nus, en plus, parce que moi je suis une grande marcheuse pieds nus, hein,
ah bon,
quand on se met pieds nus, en plus, on sublime en fait cette sensation d'évasion et de détente, puisqu'on se retrouve en prise directe avec la terre. En gros, on enlève ses chaussures et ses chaussettes pour marcher pieds nus dans la forêt. on profite d'un massage de la voûte plantaire dispensée par la forêt elle-même. On patauge. Voilà, donc c'est une expérience pareille,
oui,
assez inédite, qui est vraiment super.
Ouais, très bien. On n'est pas obligé de se promener tout nu, du coup, ça va. Là.
Ah, on me l'a fait à chaque fois aussi, non.
Eh oui, tiens, vous y avez droit.
La randonnée.
Eh ben oui.
C'est très tendance, la randonnée.
La randonnée, oui. D'accord.
Ah bon, non, ça je fais pas.
Non, il y en a qui font ça dans la neige aussi, figurez-vous.
Super, oui, non.
Bon, ben, très bien pour tout ça. Merci beaucoup, bravo, continuez. Je vous souhaite une excellente journée. Merci.
Merci à vous, merci. Au revoir.
Au revoir. Bon, c'est pas mal tout ça.
Bah ouais. Remettez vos chaussures, William.
Ce qui m'intéresse, oui. Ce qui est intéressant, franchement, parce que moi, le site gallo-romain, comme il y en a très peu en Europe, celui-là, il est, paraît-il, exceptionnel.
C'est ça qui me plaît. C'est qu'il y a le musée, il y a les vestiges autour, et on peut agrémenter avec cette visite dans la nature, dans les forêts, dans ce grand site de France. Et là, avec Maud d'Échappée Morvandel, vous allez pouvoir, pour 21€ par personne, faire une grande balade. Sachez aussi que c'est gratuit pour les moins de 7 ans.
Alors,
donc ça, c'est vraiment intéressant.
Ce que vous avez dit, Échappée Morvandel, il faut expliquer. Hein. Alors, c'est le nom
de
l'entreprise qu'ils ont créée.
Exactement.
D'accord. Alors, Morvan, ça, Del.
Bah, comme les ailes de l'oiseau. D'apostrophe A-I-L-S.
Oui, ce sont les ailes. C'est pas la Morvan, Morvandel.
Non.
C'est Morvan plus loin d'elle.
C'est un jeu de mots. C'est un jeu de mots.
Ah bon, très bien.
On aime bien jouer.
Si on veut se restaurer, on mange des cailloux sur le chemin, pieds nus.
Non, William. Alors, remettez vos chaussures et on va aller manger au Chaudron. Le Chaudron, c'est le restaurant qui est dans le musée de Bibracte. C'est là où vous, pour 19€ par personne, vous allez manger à la mode gauloise.
Ah bon, alors ça c'est
va
bien
vous
ça.
Plaire, ça.
Allez-y.
Alors, sans chaussures, mais aussi sans fourchette. Parce qu'on mangeait
pas
de fourchette,
pas
bien entendu. Elle n'avait pas été inventée encore. Donc, par contre, vous avez la cuillère, vous avez le couteau, vous avez l'écuelle et vous avez des plats de l'époque.
C'est-à-dire?
Alors, ça change tous les ans, ça change à toutes les saisons. Il y a des salades de lentilles d'orge, parfois. Il y a aussi des lentilles et d'orge, bien entendu. Il y a des viandes mijotées aussi. Alors ça, j'aime beaucoup, avec du miel et du cidre. Ça, c'est pas mal. Et vous avez des petites brioches aux pommes avec de la crème au miel. Je ne vous dis que ça. Et bien sûr, il y a la cervoise à consommer avec modération.
Bien sûr, comme Astérix. Alors,
carrément, c'est l'ancêtre de la bière.
On va terminer avec un récapitulatif de ce que vous avez peut-être loupé si vous êtes arrivé en retard.
Vous avez tort.
Bien sûr, ce que nous ne souhaitons pas pour la semaine prochaine. Alors, aujourd'hui, on a visité quoi ?
Alors, nous avons visité le château observatoire d'Abadia. C'était à Hendaye, au Pays Basque. Ensuite, nous avons visité une collection d'art moderne installée dans l'abbaye royale de Fontevraud. Là, c'était dans le Maine-et-Loire. Mm-hmm. On a ensuite fait un petit voyage, pas très très loin. On est parti faire ses chocolats à Alençon, chez Olivier Viel, c'est dans l'Orne. Et
oui,
enfin...
J'insiste là-dessus parce qu'on vous dit oui, bon, on a été manger chocolat. Non. C'est assez original parce qu'il n'y en a pas beaucoup en France, comme ce que fait Olivier Viel dans son atelier. Hein.
Et surtout...
C'est les fabriquer soi-même.
À un mois ou presque de Noël, c'est pas mal. Hein, pour faire une petite surprise à grand-maman, ça peut être sympa. Et puis ensuite, on a fini dans la forêt du Mont-Beuvray, dans ce grand site de France, dans le Morvan, à la découverte de ces vestiges des villas gallo-romaines où Vercingétorix avait vécu, mais tout ça avec une buse.
Mm-mm. Alors, c'est pas tout, parce que régulièrement, maintenant, en fin d'émission, on termine avec une proposition de livre, un film, une expo, etc., qui est en rapport avec la France que l'on vous décrit toutes les semaines.
Alors, je vous emmène aujourd'hui à Toulouse. Là, on va aller au Muséum d'Histoire Naturelle. C'est un endroit vraiment génial. Et en ce moment, il y a une exposition qui est consacrée aux magies et aux sorcelleries. Alors, On a de la chance, elle est prolongée jusqu'au 2 janvier 2022 et c'est tant mieux parce que c'est l'occasion de se plonger dans un univers de croyances très très étranges, très très diverses et surtout d'y aller en famille. Et alors là, je vous conseille quelque chose de vraiment original, j'ai jamais vu ça ailleurs. C'est un parcours hypnotique de l'exposition. Ça veut dire quoi? C'est que vous allez être avec une praticienne en hypnose.
Ah bon?
Dans une exposition sur la magie et les sorcelleries.
Elle vous hypnose.
Vous allez voir, William. J'ai envie de dire que pour une expo sur la magie, c'est magique.
Non, vous croyez pas? Ça coûte combien?
Alors, c'est entre 7 et 9 euros. Si vous voulez ensuite aller visiter le musée, 7 euros l'exposition et 9 euros avec le musée. Et ça en vaut sacrément la peine.
L'émission est terminée pour cette fois. Merci à Marie Jacquet, à Pierre Samanos, à Christophe Pierrot, à Daniel Moreau et à Gavin Clément-Terruiz, mon voisin, et à Morgane Biquillet. Alors, quant à nous, on se retrouve samedi prochain, c'est indispensable. Venez à 15h pour partir à la découverte de 4 nouveaux sites. Bon après-midi sur Europe 1.